OK, nous sommes dans Genèse, chapitre 25. Le message ne sera pas très long aujourd'hui. On a beaucoup de choses à faire avec les descriptions, les discussions, le repas du Seigneur, le culte en anglais plus tard. Donc, nous sommes dans Genèse, c'est le chapitre 25. Et à partir du verset 19. Et ça, c'est surtout pour nous remettre dans le contexte historique. Genèse chapitre 25 et verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram et sœur de Laban, l'araméenne. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit : S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Donc l'idée, c'est que les enfants se bousculaient à l'intérieur, ils combattaient, et il y avait déjà la compétition entre les deux. Et ça faisait bizarre à l'intérieur de son corps. Elle dit, bon, ça ne va pas la peine d'être enceinte si c'est comme ça. Okay? Donc elle a prié à Dieu. Pourquoi? Il y a tellement de mouvement à mon intérieur. Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Ça, c'était la réponse que Dieu lui a donnée à sa prière. C'était une prophétie. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Donc, ils étaient mariés 20 ans sans avoir d'enfants. Et à la fin de ces 20 ans, ils ont eu la seule naissance, mais deux enfants. Alors, je voudrais commencer à parler, en fait, aujourd'hui, de notre personnage. C'est celui qu'on appelle Apollyon. C'est le diable. Et ce mot-là, ça signifie destructeur. Rien ne plaît plus au diable, au destructeur, que de détruire. De détruire une personne, de détruire un couple, de détruire une famille, de détruire une église, une communauté, un peuple, une nation, un pays ou le monde entier. C'est dans son caractère, détruire. Toute activité destructive, comme tout mensonge d'ailleurs, à son origine, je ne dis pas que le diable est juste là prêt à faire une destruction à tout moment, non. Mais toutes ces activités destructives, comme tout mensonge, à leur origine, prennent leur source dans le diable, dans le mal. Et ce que nous allons voir, parce que le texte qu'on vient de lire, c'était simplement pour nous mettre dans le contexte historique. On va lire à propos de cette famille et surtout de ces jumeaux-là. Et donc, je voudrais reposer un petit peu la pensée aujourd'hui sur la famille. Combien est importante la famille? Comme vous savez bien, Dieu a créé le premier couple, Adam et Ève. Et il les a dit d'avoir des enfants. Une fois qu'il y a des enfants, c'est une famille. Vous voyez? Donc, tout depuis le début, on avait cette unité, ce groupe qui s'appelait la famille. Et la famille est vraiment à la base de la société. Il y a des influences extérieures qui peuvent détruire une famille. À l'extérieur de notre petit groupe de famille, maman, papa et puis les enfants, il y a des autres choses. Par exemple, ils peuvent avoir une femme au travail qui essaie de séduire monsieur ou un homme au travail qui essaie de séduire madame. Donc, ils peuvent avoir de l'immoralité qui va détruire cette famille. Il peut avoir des troubles financiers. Il peut avoir un accident de voiture. Il peut avoir de la guerre ou un meurtre ou des agressions diverses qui pourraient venir de l'extérieur et tout bouleverser dans une famille. Et la famille peut être aussi détruite dedans, par nos propres mains. Par exemple, des membres de notre famille peuvent faire des choses à risque. Je vous ai parlé de ces jeunes, deux jeunes aux États-Unis, qui ont pris des drogues. Et l'un, il est mort. La famille était mise à terre. Comment on fait quand on rentre des vacances et on trouve le fils mort dans le séjour parce qu'il a fait une surdose de drogue? Ça gâche la relation familiale. Ou on peut avoir d'autres problèmes d'intérieur, que ce soit alcool, drogue, des vices comme le poker, le loto. On commence à mettre tout l'argent qu'il devrait payer pour la location, qu'il devrait payer pour les assurances, qu'il devrait payer pour la nourriture, qui sort dans d'autres domaines. N'importe quelle addiction peut créer des troubles dans la famille et au long terme détruire une famille. Et puis, il y a aussi des comportements, des attitudes dans une famille qui peut à la fin, détruit la famille. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Il y a, qu'on voit dans cette relation familiale, il y a des comportements de compétition entre les enfants. Il y a du favoritisme chez les parents. Il y a de la manipulation. On ne va pas passer le temps pour lire toute cette partie de l'histoire. Il y a des mensonges, il y a la tromperie, il y a l'envie et l'égoïsme. Et ces choses-là sont les attitudes, les esprits au sein de la famille qui, à la fin, ont détruit cette famille. Et le parti du chapitre 25 et puis le chapitre 27 qu'on peut lire, c'est la seule chose qu'on connaît de cette famille, de Isaac et de Rebecca. Et par ces événements, surtout quand Jacob va tromper son père, il va mettre des poids dessus et puis sous le conseil, on va dire, de sa mère. Et puis le papa va donner la bénédiction à Jacob. Et puis Jacob va partir à Padam Aram pour séjourner chez Laban. Eh bien, ce qu'on voit ici, c'est la dernière fois qu'il voit sa mère. Et c'est la dernière fois qu'il voit son père. Donc, pour dire qu'ils ont gâché la famille. Parce qu'il n'y avait plus de famille. C'était pouf! Éclaté par ses mensonges, par ses tromperies, et même le frère voulait tuer le frère, c'était fini. Okay? Donc pour nous, qu'est-ce qu'on veut dire? Est-ce qu'on veut apprendre comment détruire la famille? Non, on voudrait éviter tout ce qui pourrait détruire nos familles. D'accord? On voudrait protéger nos familles autant que possible des influences extérieures, mais on ne peut pas toujours. Hein, on va au travail, et puis quelqu'un qui grille un feu rouge, et bam! Et puis quelqu'un est handicapé pour le restant de sa vie, ou tué sur le coup. On ne peut pas savoir tout ce qui va arriver dans la vie. Mais ce qui est de notre ressort, hein, c'est ça qu'on voudrait voir. Donc regardez dans le verset 27, Genèse chapitre 25 et verset 27. Ses enfants, donc les deux jumeaux, grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Alors, on ne peut pas dire grand-chose à partir de ces versets, mais je voudrais souligner que chaque personne dans une famille est différente. On aura des points forts, des points faibles, on aura des personnalités des fois bien différentes. Et il faut respecter chaque personne telle qu'elle est. On ne peut pas forcer. Vous savez, comme dans le temps, on forçait les gauchers à écrire avec la main droite. Ça ne va pas. Il faut respecter les différences qu'on trouve dans la famille. Et on a décrit deux personnalités bien différentes. Ce ne sont pas des jumeaux identiques. Hein? Mon père était un jumeau identique. Hein? Deux gouttes d'eau. On ne peut pas être plus identique. C'était le plaisir de venir même au travail à 50 ans. Mais au lieu de mon père qui vient dans le laboratoire, c'est son frère. Et puis, il passe la matinée à tromper tout le monde. Et bon, c'était comme ça. Mais ici, c'est vraiment deux faux jumeaux avec des personnalités et des corps bien différents. Verset 28. Isaac aimait Esaü parce que il mangeait du gibier. Ça alors. Alors, on voit d'un côté, il y a une raison donnée. Mais l'autre, et Rebecca aimait Jacob. Il y a une différence, oui. Mais on ne donne pas pourquoi elle aimait l'autre. OK? Il a donné une raison pourquoi, il y a toujours une raison. Donc, on avait, est-ce que tu te souviens de cette dame qui amenait toujours un cadeau pour Étienne? Il y avait une dame dans notre église en Normandie et elle avait un favoritisme, on peut dire béant, évident, pour notre fils Étienne qui habite en Savoie là. Hein? Et tous les dimanches, elle amenait un cadeau pour Étienne. Moi, j'ai quatre garçons. Et je devais le dire à la fin, j'ai dit, écoutez, si tu veux amener un cadeau pour quatre garçons, ça va, mais si c'est pour un, tu ne peux plus. Parce que ce n'était pas juste. Et ça créait des problèmes. Donc, le favoritisme, ça détruit une famille. Alors, il n'y a que deux familles avec des jeunes ici, mais je parle pour tout le monde parce qu'on peut toujours donner des conseils autour de nous, n'est-ce pas? Donc, c'est bien de connaître. Le favoritisme détruit une famille. C'est quand l'un des parents, ou les deux, montre plus d'affection envers certains enfants ou le retient des autres. Par exemple, dans l'histoire de Cendrillon, hein, la belle-mère de Cendrillon favorisait ses deux filles et retenait toute affection de Cendrillon. Hein, vous connaissez toute l'histoire de Cendrillon. Donc, c'est vraiment évident dans cette histoire-là. Okay? Mais le favoritisme va créer des sentiments d'injustice chez les enfants. Qu'est-ce que tu ressentais quand cette dame donnait les choses à Étienne? Je ne me souviens plus. Mais ça crée des problèmes. Les enfants sentiront le manque d'amour de l'un ou des deux parents. Ça arrive dans les familles qu'il y a un qui est l'enfant à fouetter et les autres enfants ont toutes les affections, comme dans Cendrillon. Cendrillon. Hein? Dans la vraie vie, ça arrive. Alors, ces enfants-là sont chahoutés. C'est nous, chouchoutés. Et l'autre, délaissé. Et ça change les personnalités, ça crée des problèmes. On le voit ici, avec l'histoire de Jacob et Esaü, et puis on va le voir plus tard dans l'histoire de Joseph. Jacob, qui avait été préféré par sa mère, et puis lui va préférer son fils Joseph. Il va lui faire un manteau plein de couleurs et tout ça. Et les autres 10 frères, plus âgés, ou je pense plus âgés, eh bien, ils vont avoir de la haine pour lui. Ils vont l'envoyer vendre plus tard en esclavage. c'est la faute de son père. Hein? Ils n'auraient pas dû agir comme ça. Je n'ai pas dit qu'ils avaient droit à agir comme ça. Mais c'était la conséquence de créer cette animosité. Donc, dans la famille, vous devez traiter vos enfants ou vos petits-enfants avec égalité. Si vous donnez, par exemple, un bonbon à l'un, vous devez donner des bonbons à tous. Alors, nous, on n'a pas eu ce principe d'égalité absolue. Ma mère cherchait à faire une égalité absolue. Elle donnait un chocolat à un, elle donnait le même chocolat à nous trois. Bon, peut-être un n'aime pas le chocolat. Donc, il faut mitiger le principe. C'est l'idée, c'est vous donner quelque chose comme un bonbon à l'un, ben, vous connaissez vos enfants, vous donnez quelque chose agréable à chacun qui va être apprécié. Ou si vous allez faire une sortie, par exemple, faire une heure spéciale avec un de vos enfants, ben, c'est isolé, hein? C'est ça, papa avec le fils, par exemple. Eh bien, vous allez prendre la fille et faire une sortie avec elle aussi, mais une autre fois. Et elle saura que ce n'était pas qu'elle était exclue, mais c'était personnel avec le frère et personnel avec la sœur. Hein? Les enfants comprendront quand c'est la justice et quand c'est l'injustice. Quand vous allez donner la punition à l'un pour quelque chose, eh bien, il faut donner la punition à l'autre pour la même chose. Même punition pour la même faute, etc. Et donc, vous voyez bien dans le contexte de Jacob, Isaac et Rebecca, donc puisqu'ils avaient chacun leur préféré, eh bien, le favoritisme a divisé les parents. Si vous divisez les parents, vous êtes en train de détruire aussi la famille. Et à savoir que, comme on a vu, Jacob avait été le préféré de sa mère, et bien lui avait un préféré. Et ce genre de choses se communiquent. On apprend des mauvaises habitudes comme ça. Comme j'ai déjà dit, mon père et mon oncle étant jumeaux, et mon père était le premier-né, ben, mon oncle était toujours jaloux de sa place. Il voulait être le premier-né. Et c'était un conflit jusqu'au mort de mon père. Hein, il n'avait pas tout à fait 80 ans, mais c'était une jalousie qui a duré toute sa vie. Et il exprimait de temps en temps, mon père et mon oncle, des choses qui concernaient ce conflit entre eux, cette compétition, cette jalousie, et juste pas trop longtemps avant la mort de mon père, j'ai entendu mon père dire quelque chose à mon cousin. Et il a blessé mon cousin parce qu'il a remené cette jalousie sur le tapis. Donc c'est pas bien. Alors on va lire verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Esaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Édom. Qu'est-ce que vous aurez fait, vous, le chrétien, quand votre frère ou même un ennemi vient dire qu'il est fatigué, il a besoin de manger? Qu'est-ce que vous aurez fait?
Je donne à mon frère.
Hein?
Je donne à mon frère, c'est mon frère.
Tu aurais donné, hein?
Oui.
Et qu'est-ce qu'il a dit? Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit de aînesse. Et Esaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit de aînesse? D'aînesse. Alors, à mon avis, s'il avait un petit peu plus de caractère, il aurait simplement dit, « Bon, je vais chez maman. Je vais manger chez nous. » Mais il avait tellement de faim, ou je ne sais pas, il ne voulait pas rentrer dire, que j'ai fait la chasse, et puisque c'est ton fierté, il était un homme de chasse, il n'avait rien, pas de gibier, donc peut-être il ne voulait pas rentrer chez les parents pour dire j'ai les mains vides. Donc il s'est arrêté chez son frère et il a vendu son droit de NS. Jacob dit, jure-le-moi d'abord, avant que je te donne quelque chose à boire, à manger, tu vas me jurer que tu me vends ton droit de NS. Il lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi que Esaü méprisa le droit d'aînesse. C'est dommage. Deux frères, deux jumeaux, ils auraient dû avoir un peu d'amour l'un pour l'autre, au lieu de cette compétition et cette haine entre eux. La jalousie de Jacob est évidente à travers cette histoire. Il était le deuxième né. Il voulait avoir ses droits d'aînesse. Et il n'aimait pas son frère. Dans Galates chapitre 5, je vais simplement lire quelques versets, vous n'avez pas à chercher. Nous lisons, « Ne cherchez pas une vaine gloire » et ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Dieu a permis que cette histoire soit dans la parole de Dieu, mais ce n'est pas pour le répéter. C'est pour voir le mal qu'on peut faire au sein de nos familles. Galates chapitre 5, verset 15. « Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Et quand on lit le chapitre 27, on va voir à la fin, après la tromperie de Jacob avec son père, eh bien, Esaü a juré, « Après la mort de mon père, je vais tuer mon frère. » Et c'est ça qu'il veut dire ici. Mais Paul le dit dans le contexte de l'Église, que dans l'Église, nous devons aimer les uns les autres. Nous devons faire le bien les uns pour les autres. Nous devons pourvoir pour les besoins les uns des autres quand il y en a qui ne peut pas pourvoir pour quelque chose, mais qui a besoin. Eh bien, il ne faut pas le vendre. Il faut venir en aide parce qu'on aime. On s'aime. Dans Galates chapitre 5, verset 20, nous lisons, verset 20 et 21, je ne vais pas lire tous, mais on voit que dans la nature humaine, il y a les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, l'envie. C'est des choses qui se trouvaient dans la vie entre Esaü et Jacob. C'était la vie humaine purement. Mais on a la solution dans la parole pour la famille, comme pour l'Église. C'est de pratiquer la bonté. Donc, l'amour, c'est la mise en pratique de la bonté. Pratiquer la bonté les uns envers les autres. Nous devons valoriser les uns et les autres. Avoir une attitude de service. Et je vais lire donc Galates chapitre 5, versets 13 et 14. Frères, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, par l'amour, serviteurs les uns des autres. Jacob aurait pu servir son frère. Ils auraient peut-être eu une meilleure relation par la suite. Et la famille aurait resté ensemble. Mais non, il n'a pas choisi d'aimer son frère. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Dieu veut qu'on marche avec l'esprit, qu'on marche dans l'esprit, qu'on vit comme des chrétiens. Que ce soit dans notre famille ou dans le contexte de notre communauté d'église. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifier la chair. Toutes ces choses de envie, de jalousie, d'animosité, on les a mises à mort, on les laisse derrière. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Donc voilà, c'est quelques petits conseils pour les familles. Attention qu'on construit chaque personne, on respecte leurs différences et qu'on agit par amour pour le bénéfice les uns et les autres au sein de nos familles et aussi au sein de l'Église.